Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Gmoni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le thème du Grand Dialogue de ce soir, centre du Mali. Quelle est la pertinence de la nomination d'un haut représentant du centre au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue et pour en discuter, nous avons trois invités. Dr Ali Tunkara, sociologue, Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité de Bamako et Brahima Mamadou Kone, politologue. Je suis Mohamedou Touré. Bonsoir et bienvenue à tous.
Le Grand Dialogue.
Alors, Ibrahim Maïga, aujourd'hui, on parle de la nomination d'un haut représentant du chef de l'État au centre du Mali, en la personne de Diongunda Traoré. Quelle est la pertinence de cette nomination, selon vous?
Peut-être juste avant de répondre à la question, il faut situer les choses dans leur contexte. Cette nomination intervient à peu près 3 ans après le début de la crise dans le centre du Mali, si on estime la dater à 2015, même si les signes précurseurs remontent à bien plus loin dans le temps. Et donc, elle intervient à un moment où il y a quand même une grogne vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis du gouvernement. Cette grogne portait essentiellement sur le fait que la crise dans le centre du Mali n'était pas suffisamment prise au sérieux par les autorités maliennes et qu'elles étaient focalisées davantage sur le nord. Qui, quand on regarde les statistiques, avait un niveau de violence moins élevé que le centre du Mali. Il y a d'autres explications à cela, mais globalement, on trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment de prise en compte ou de sérieux, de gestion sérieuse de la crise dans le centre du Mali. Donc c'est d'abord une réponse politique à cette grogne, à cette récrimination d'une partie de la population, d'une partie des représentants aussi ou des associations de représentants des ressortissants du centre du Mali, donc des régions de Mopti et de Ségou. Et c'est une réponse symbolique. C'est une façon pour le chef de l'État de montrer qu'il s'intéresse et qu'il prend les choses au sérieux, très au sérieux d'ailleurs, la dégradation de la situation sécuritaire. Maintenant, évidemment, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas la nomination du professeur Diongunda Traoré qui va régler la situation dans le centre du Mali. Mais je trouve important de situer les choses dans leur contexte avant de parler de la pertinence ou non de la nomination d'un haut représentant du chef de l'État pour le centre du Mali.
Est-ce pertinent selon vous?
Alors, la pertinence peut s'évaluer à plusieurs niveaux. Pertinent d'un point de vue symbolique, d'un point de vue politique, sans aucun doute. Maintenant, est-ce pertinent d'un point de vue technique? Là, il faut encore attendre de voir un peu plus clair sur la feuille de route qui a été confiée au professeur Diongunda Traoré pour savoir exactement quelles sont ses prérogatives, qu'est-ce qui est attendu de lui. Est-ce qu'on attend de lui un rôle qui joue le rôle de coordination des initiatives et des actions de l'État mais des autres partenaires? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'interventions dans le centre du Mali, que ce soit au niveau des organisations de la société civile, au niveau des agences humanitaires et même au niveau étatique, il y a beaucoup d'initiatives qui se chevauchent parfois et qui se mènent de façon cloisonnée. Donc il était important, utile à mon avis, qu'il y ait un coordonnateur pour fédérer et pour mieux agencer ces initiatives un peu désordonnées dans le centre du Mali. Donc de ce point de vue également, ça peut se justifier. Et enfin, un dernier élément qui n'est pas non plus négligeable, c'est le fait que la nomination d'un haut représentant du chef de l'État permet au chef de l'État lui-même de réagir beaucoup plus, avec beaucoup plus de recul. Le représentant sera éventuellement amené à réagir à chaud, à trancher dans le vif. Le chef de l'État, lui, aura le luxe, si on peut le qualifier comme tel, de prendre un peu plus de distance, un peu plus de recul vis-à-vis de la situation et d'avoir un peu plus de hauteur par rapport aux acteurs et par rapport aux enjeux.
D'accord. Brahima Mamadou Kone, est-ce que vous pensez que cette nomination du professeur Diongunda Traoré va servir à quelque chose?
Bon, pour moi, en fait, cette nomination intervient dans un contexte de crispation du climat social et politique à Bamako. Parce que vous savez que tant que Bamako est stable, ça peut aller dans les autres régions. Mais tant que Bamako est dans l'instabilité, ça a des répercussions aussi sur les autres régions. et nous avons participé à la signature d'un accord politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir une vision commune, une convergence des forces politiques par rapport à la question de la crise du centre. Mais de prime abord, je pense que c'est une réponse, cette nomination du professeur John Kunta, c'est une réponse institutionnelle et politique et par rapport à la gestion de la crise. Mais la thèse qui peut être plausible, moi je vois derrière cette nomination du professeur John Kunta peut-être un début de négociation avec les groupes djihadistes et aussi un début de négociation et de désarmement des milices qui opèrent dans la zone. Et aussi, comme M. Maïga l'a dit, en fait, il y a des acteurs aujourd'hui, il y a des partenaires qui sont disparates. Il faut qu'il y ait quelqu'un au niveau institutionnel pour pouvoir coordonner l'ensemble des actions au niveau du centre, en termes d'actions humanitaires, en termes d'actions sociales et en termes de négociations avec les différentes milices et puis les différentes milices et puis les différents groupes djihadistes qui opèrent dans le sens. Moi, je pense qu'on doit interroger aujourd'hui. Je vois beaucoup de bruit autour de la nomination du professeur. Je pense qu'il faut interroger aujourd'hui notre appareil de défense. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de riposte face à la menace djihadiste? Et si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je pense que dans la gestion d'un État, on ne gère pas tous les problèmes. Souvent, il faut déplacer certains problèmes. Comme Oufouad Boyen le disait, en faisant des compromissions, en faisant des concessions pour ne pas bloquer les pays. On est aujourd'hui... Et c'est pas une obligation, mais je suis pour la négociation, pour la médiation avec le groupe djihadiste. Est-ce qu'il faut négocier avec ce groupe djihadiste et ces milices, les désarmer, ou est-ce qu'il faut continuer à mourir? C'est la question de fond. Et je dis, premièrement, ce que le professeur doit faire, c'est de travailler de concert avec le Premier ministre.
On va y revenir tout de suite. Okay. Alors, Dr Ali Tunkara, est-ce que vous pensez que le professeur John Kunta Traoré est l'homme qu'il faut pour être un haut représentant de...
Bon, c'est vrai qu'en m'inscrivant dans la lignée de mes prédécesseurs, naturellement, une telle nomination est diversement appréciée, un peu partout ailleurs, pas qu'au Mali, mais au-delà de sa personne, qu'il faut quand même le rappeler, aujourd'hui, le centre du Mali... Nous devons nous poser un certain nombre de questions qui nous permettraient d'évaluer la pertinence ou la non-pertinence d'une telle nomination. M. Maïga l'a un peu évoqué. Tout dépendra de la marge de manœuvre qui lui sera accordée. Est-ce que le président John Kunta Traoré serait-il en mesure de combler les tares de l'État qui sont reprises à la fois par le groupe d'autodéfense et par le groupe radicaux violents. Est-ce qu'une telle nomination pourrait permettre justement de distribuer de façon tout à fait égalitaire la justice entre toutes les communautés? Est-ce que le président John Kunta Traoré on lui permettrait justement de faire en sorte que l'État arrive à bien distribuer ce qu'on pourrait qualifier les services sociaux de base, tels que l'accès à l'eau potable, même la couverture sécuritaire. Mais je pense que lorsqu'on regarde les différentes initiatives qui sont entreprises au nom du centre du Mali, de 2015 à aujourd'hui, naturellement, on ne peut pas parler de l'absence de l'État à cet effet. Mais le blocage résiderait plutôt dans la concrétisation de toutes ces initiatives qui sont prises ça et là. Maïga a aussi parlé de cet emboutillage en termes de logique d'intervention, que ces interventions soient communautaires ou même des partenaires étrangers. Fondamentalement, pour le cas précis du centre du Mali aujourd'hui, ce n'est pas la personne du président John Kunta Traoré qui serait même importante, mais concrètement, il est capable de quoi? Qu'est-ce qu'il peut concrètement apporter en termes de réponse qui n'a pas été apportée jusqu'ici par toutes ces initiatives, en passant par toutes ces initiatives de régulation du centre du Mali, les ONG qui opèrent dans ces différentes localités, tout en interrogeant également l'apport de la force conjointe du G5. Donc, c'est pour vous dire que je pense fondamentalement la nomination s'inscrivait plus dans des logiques symboliques qu'autre chose, parce que la question, elle n'est pas personnelle, on n'est pas contre sa personne. Moi, je ne vois pas en quoi, en termes d'innovation, en termes de réponse à ces souffrances communautaires et populaires, que le président Diokoula Traoré pourrait être mieux indiqué par rapport aux initiatives que l'on connaît jusqu'ici. Donc c'est pour vous dire que, du point de vue symbolique, naturellement, il faut saluer une telle nomination. Ça témoigne à suffisance aussi auprès de communautés traversées par l'insécurité, que l'élite commande se soucierait d'elle, ce qui est une bonne chose en soi. Mais dans le même temps, ça pourrait aussi quand même donner cette impression à l'étranger que la question du centre est au cœur des préoccupations des gouvernants. Donc je pense que du point de vue symbolique, la nomination est à saluer, mais en termes d'effet, en termes d'incidence, quant à un possible apaisement des dynamiques conflictuelles au centre, j'ai de forts doutes, lesquels doutes pourraient même carrément dépasser le cadre doutes pour même parler de certitude, en fait. Voilà.
D'accord. On va écouter une partie de la population, quelques habitants de la région de Mopti qui réagissent par rapport à cette nomination du professeur Diokoula Traoré.
Aujourd'hui, le problème du centre, à mon avis, c'est Diokoula même, parce que c'est lui qui a fait venir la France, les ministres. Maintenant, leur sécurisation, ça n'a rien servi.
Moi, je suis très, très contente que Diokoula soit choisi parmi ces gens.
Pour bien dialoguer avec les centristes qui parlent pour Fulfulde, Dogon, Soray, plus le Bambara.
Si on voit vraiment la crise, c'est Diokoula qui était à la tête. Il a pu avoir les solutions, l'histoire de Kwana.
Non, moi, j'aurais souhaité qu'on évite Diokoula. Diokoula a fait son temps. Présentement, il est vieux. Il doit se reposer.
Il le connaît très bien, ce pays.
J'aurais mieux de déléguer Amadou Toumani Touré, l'enfant du centre, qui connaît les enfants du centre, qui connaît les difficultés qui sont au centre.
Je suis très content que Diokoula soit le dirigeant du centre. C'est lui qui nous connaît.
Donc, nous, on veut quelqu'un qui va nous sauver. C'est pas Diokoula, c'est pas Atete, c'est pas quelqu'un d'autre.
Si c'est une façon de passer la main à Diokoula, peut démissionner. Donc, on va organiser une autre élection, élire un autre président. Parce que déjà, lui, il a montré vraiment ses limites.
Pas être à Bongo et dire que tu es là, tu es en train de coronner.
D'accord. Vous venez d'entendre une partie des réactions des populations de Mopti. Est-ce que vous pensez que leurs préoccupations, notamment ceux qui pensent que Diokoula n'est pas la personne indiquée, sont justifiées?
Alors, ce que je comprends, ce que je déduis un peu de ce micro-trottoir, c'est que on attribue à Diokoula en réalité les défauts de ses qualités. Et je m'explique. Diokoula Traoré est un ancien président de la République. C'est aussi un ancien président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, ministre de la Défense, etc. Et donc, de par ses postes et des responsabilités qu'il a eu à occuper, il a une connaissance des hommes, il a une connaissance des enjeux. Je pense que ça a été rappelé par un interlocuteur. Maintenant, les autres disent effectivement qu'il est aussi à l'origine du problème, de la crise dans le centre. Et ça, il faut le comprendre un peu par le fait que la situation dans le centre aujourd'hui est en réalité la face visible de quelque chose qui se tramait depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs décennies. On a aujourd'hui, quand vous interrogez les origines de la crise, vous ne pouvez pas ignorer l'impact des politiques successives de ces dernières décennies. Les politiques, que ce soit en termes d'action ou d'inaction, en termes d'action ou d'inaction dans cette partie du Mali. Et donc, en tant que responsable politique, en tant qu'homme d'État qui a occupé ses fonctions, il est aussi comptable de la situation dans le centre du Mali. C'est pour cela que je disais qu'il a un peu les défauts de ses qualités. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez de près la situation dans le centre du pays, je parle de façon vraiment profonde et pas de façon superficielle, vous constaterez en fait que ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est le modèle sociopolitique, en réalité, le modèle de gouvernance de cette partie du Mali, mais également du Mali de façon générale. Et donc, en tant qu'acteur politique majeur de ces 30 dernières années, on peut également s'interroger sur la capacité de Diokoula Traoré à transcender un peu ou à aller au-delà de cette conception de la gouvernance, de cette conception du pouvoir pour proposer un modèle alternatif, une gestion alternative aux populations.
D'accord, Bruno.
Mais j'aimerais juste revenir sur des éléments qu'ont apportés les collègues, en parlant de la nomination en elle-même du professeur Diokoula Traoré. Je pense qu'il faut constater aussi que jusqu'à récemment, la question du centre est, de mon point de vue, gérée de façon prépondérante par des sécurocrates, on va dire ça comme ça, pour être gentil. Des gens avec soit un passé militaire ou même des militaires, tout simplement. Que ce soit la gestion militaire ou sécuritaire à proprement parler, ou même la gestion tout court de la région. L'ancien gouverneur, Sidi Alassane Touré, était militaire. Le nouveau gouverneur est général aussi, Abdoulaye Cissé. Et donc, cela fait qu'on a, de mon point de vue, une façon déséquilibrée de voir les choses. Et donc, la nomination des civils vient un petit peu compenser la façon dont on gère la question ou les difficultés dans le sens. Ça permet de rééquilibrer un petit peu cette gestion qui est un peu trop militaire.
Alors, Brima Mamadou Kone, est-ce que vous vous interrogez sur la capacité du professeur Diongunda Traoré à faire face à la situation ?
Bon, en réalité, premièrement, c'est que Diongunda est un ancien de carrière, ce qui est extrêmement important. Et deuxièmement, il a été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense sous Alpha, ensuite président de la République. Est président de l'Assemblée nationale et président de la République, comme M. Maïga l'a dit. Je pense qu'il a l'expérience nécessaire aujourd'hui pour pouvoir relever les défis qui sont liés à ces postes, malgré que je ne suis pas proche pour du dossier, pour savoir quelle est la feuille de route. Mais je comprends aussi la déception de certains de nos compatriotes, parce que quand vous prenez le problème du Nord, la crise du Nord, elle est d'abord économique et sociale. Il y a un problème, un vrai problème de redistribution au niveau du centre, je veux dire. Il y a un réel problème de redistribution de la justice sociale et aussi des aspects économiques. Parce que quand vous prenez le Mali, on a souvent l'impression que la plupart des ressources publiques sont maintenues dans les mains d'une minorité qui décide de la redistribution aux différentes échelles d'économie avec une majorité. Ce faisant, la majorité est maintenue dans des conditions de précarité. Et comme le disait Kizerbo, vous savez, la pauvreté est un manque de choix. Et la pauvreté est à la base, généralement, de l'ensemble de plusieurs tensions sociales au sein de nos États africains. Mais au-delà de tout cela, la question de l'intervention française, nous étions tous là. Et je pense que le docteur Tunkara ne me dirait pas le contraire. Si la France n'était pas intervenue, je sais que beaucoup d'entre nous, comme moi, seraient peut-être à Abidjan et puis peut-être Tunkara
D'accord, mais il y a Maïga qui disait que cette nomination de professeur Diongunda Traoré peut montrer que cette question du centre est suffisamment prise au sérieux par les dirigeants. Quand vous entendez tout de suite certains habitants de la région de Mopti qui réagissent, qui disent que Diongunda n'est pas l'homme qu'il faut, est-ce que vous pensez que cette prise au sérieux est perçue par la population ?
Bon, elle est perçue par la population, je crois qu'il faut nuancer de façon différente. D'autres ont apprécié la nomination de Diongunda de par son expérience et d'autres aussi le fustige en termes de responsabilité par rapport à la gestion de la crise du Nord.
Ont-ils raison ?
Du centre. Bon, ont-ils raison ? Ça, c'est trop dit. Mais pour moi, le plus important, il y a l'aspect symbolique. Et vous savez, il y a eu des marches en lien à Bamako. Et je pense que la désobéissance civile, si vous permettez, avait atteint son paroxysme. Il fallait avoir une réponse institutionnelle et une réponse politique. Et je pense que le président de la République a pris à bras le corps la question du centre, parce qu'il y a eu des marches pour dénoncer les massacres qui sont les massacres au niveau du centre. Et je pense que si on n'avait pas eu de réponse, le Mali était à la finalité de toutes les hypothèses. Au-delà de l'aspect symbolique, je pense bien, et je crois à ce professeur, parce que de par sa patience et de par son expérience, il peut bien relever les défis. Mais on va lui accorder le bénéfice du doute.
Vous avez beaucoup plus de doutes que Maïga et Kone. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces populations, leur réaction, ceux qui pensent que Diongunda n'est pas l'homme qu'il faut et que cette mesure ne va pas servir à grand-chose, leurs revendications sont justifiées?
Je crois que l'air est aux hypothèses, naturellement. Mmh. C'est vrai que pour l'instant, déjà, on me connaît le contenu, la feuille de route cette feuille de route qui lui sera confiée. Dans le même temps, surtout, au-delà même de l'institutionnel, la feuille de route, vraiment la marge de manœuvre effective, je ne parle pas d'une marge de manœuvre, voilà, à la malienne, quoi, écrite, bien ficelée, peaufinée, là, par toutes les littératures qui vont avec. Mais je pense que, fondamentalement, quand on écoute ces différentes interviews majoritairement, les inquiétudes naissent. Lesquelles inquiétudes sont aussi légitimes, en toute objectivité. Certaines interviews ont fait allusion à l'intervention française sous la présence quand même de M. Traoré, ce qui n'est pas anodin comme lien. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, une des raisons qui expliquerait ce sentiment de lenteur à contenir l'insécurité tant dans la région dite Nord que celle du centre du Mali, serait même lié à cet accord qui passerait entre la France et le Mali sous la présidence de Diankouna. Je pense que je comprends, je ne voulais pas être à sa place en 2012, mais franchement, j'ai la ferme conviction que le président Diankouna, il y a eu quand même des manquements quant à la façon dont ces forces étrangères devaient opérer sur le territoire malien. Par le simple fait que ces forces étrangères aujourd'hui mettent le Mali sous la touche, par le simple fait qu'elles ont quand même un appui institutionnel qui légitimerait cela. Je pense que à ce niveau, sans aller avec le dos de la cuillère, sa responsabilité est entière en dépit des contextes et des circonstances qui ont concouru à la signature d'un tel accord. Ça, il ne faut pas qu'on aille avec des langages diplomatiquement corrects. Mais au-delà de ce possible accord entre l'armée française ou la France et le Mali, je reconnais en lui naturellement, quand on regarde quand même son parcours, une expérience sans équivoque de l'appareil de l'État. Mais je pense que ces différentes expériences cumulées, si elles avaient servi, on n'allait même pas tenir ce débat. Donc c'est pour vous dire que établir le bilan du président Diankouna Traoré en toute objectivité, le bilan n'est pas mitigé, il est quand même chaotique en termes de réponse aux demandes sociétales maliennes. N'oublions pas quand même un ministre de Défense, un président de l'Assemblée, un président de la transition. Franchement, si on n'arrive pas à apporter des réponses avec toutes ces institutions, avec tous ces privilèges, je ne sais pas en quoi, dans des conflits aussi communautaires violents, qu'on pourrait être un messie, quoi. Je ne vois vraiment pas. Mais reconnaissons aussi, ne soyons pas quand même naïfs, il est mandaté par un président de la République en exercice. S'il y a des inquiétudes également quant à sa nouvelle mission à conduire, est-ce que le président lui-même serait prêt vraiment de lui laisser la main libre? Parce qu'on a quand même vu dans les temps, beaucoup ont été désignés par le président Ibrahim Boubacar Keïta, mais lesquels acteurs ont eu du mal justement à exécuter les missions qu'on les a confiées. Donc c'est pour vous dire que la nomination est une chose qui est tout à fait à saluer, mais dans le même temps, cette marge de manœuvre qui devait accompagner aussi une telle nomination, si elle n'est pas au rendez-vous naturellement, c'est de la poudre aux yeux. Donc je pense que si les Maliens ont des inquiétudes aujourd'hui, ils doivent se demander concrètement, est-ce que le président va permettre à Diankouna de dire à l'armée « stop ». Raquette, est-ce que le président Diankouna serait capable de demander au magistrat, monsieur, il faut bien dissuader la justice, est-ce que Diankouna serait capable non seulement d'identifier les acteurs qui seraient derrière ces différentes attaques meurtrières au centre, de les identifier et de les punir de façon exemplaire? Je pense que quand on n'a pas ces réponses naturellement, peu importe Diankouna, on peut nommer tout Mali, le problème qui va demeurer. En fait.
Et sans la feuille de route, difficile de savoir, d'avoir des réponses à toutes ces questions. Mais aujourd'hui, pour établir, mettre en place un mandat avec une feuille de route, il faudrait comprendre et connaître le problème. Est-ce qu'on sait réellement le problème auquel le Mali fait face au centre du Mali? Est-ce un conflit intercommunautaire? Est-ce un problème de terrorisme? Est-ce que le problème est connu?
Je pense que, en parlant déjà du problème, à la place des problèmes, on fait fausse route. On n'a pas un seul problème, malheureusement. Je pense que si on avait un seul problème, il aurait été peut-être plus ou moins facile de le régler. Ce à quoi on fait face, que ce soit dans le centre du pays, comme dans le nord du pays, et de façon générale au Mali aujourd'hui, c'est une crise multidimensionnelle qui,
à plusieurs facettes en fonction du regard et de l'œil avec lequel on analyse et on aborde la problématique. Effectivement, il y a des problèmes liés à la gouvernance, qu'elles soient politiques ou économiques, qui font ressurgir ou accentuer des tensions. Et ces tensions, évidemment, elles peuvent se manifester soit sous le couvert du communautarisme pur et simple, soit sous le couvert d'une action armée. On pourrait parler d'insurrection armée dans ce cas-là. Mais quoi qu'il en soit, la crise, elle est multidimensionnelle. Et les réponses qui doivent être apportées à cette crise doivent être aussi multidimensionnelles. Et c'est la raison pour laquelle il y a une multiplication, si vous regardez bien, un foisonnement d'initiatives à tout va, on a envie de dire, dans le centre du Mali. Et je parlais du rôle de coordination, qui me semble important, et du rôle de portage politique qu'un haut représentant peut endosser. Parce qu'effectivement, l'une des premières critiques ne visait pas la personne de Diongouna Traoré, mais le poste lui-même. Est-ce qu'on a besoin de la nomination d'un haut représentant là où on a déjà un gouverneur de région qui est censé être justement le point d'entrée de toute initiative, qu'elle soit étatique ou non étatique, dans cette région? Évidemment, comme je le disais, on peut aussi avoir des réserves sur le profil des gouverneurs dans cette région. Encore, je le rappelle encore une fois, c'est des militaires de carrière. Ce n'est pas que les militaires n'ont pas une vue d'ensemble, mais par leur profession, par leur expérience, par leurs compétences, sont amenés souvent à appuyer davantage sur le bouton sécuritaire ou militaire que sur les autres touches. Donc, quoi qu'il en soit, il est important d'équilibrer un peu la balance et d'avoir un civil qui a une autre perspective de la gestion de la crise, qui est encore une fois multidimensionnelle. Vous rappeliez à juste titre la facette du terrorisme, la facette communautaire ou le tournant communautaire que peuvent prendre les événements. Mais je pense que le fond du problème, effectivement, c'est ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la gouvernance ou l'absence de gouvernance, tout simplement, qu'elle soit économique, politique, dans cette partie du Mali.
Il y a Brahima Mamadou Kone qui disait au début que cette nomination pourrait permettre des négociations entre l'État malien et ses présumés terroristes. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut négocier avec ces gens quand on voit que le président de la République a déclaré qu'il ne va pas négocier avec Iyad Ghali?
Alors le président, c'est raison que nous ignorons, que j'ignore, pour avoir fait cette déclaration, mais... la question de la négociation avec des groupes armés qualifiés de djihadistes ou pas, elle est aussi vieille que la crise, que la crise malienne. Dès le début de la crise, on s'est interrogé sur la possibilité de négocier avec des acteurs armés. Je rappelle je le rappelle pour ceux qui l'ont oublié. Que dès 2012, la question du dialogue avec Iyad Ghali s'est posée. Est-ce qu'on dialogue avec Iyad Ghali? Et c'est ce qui aboutit d'ailleurs à la création du Haut Conseil de l'unité, pour l'unité de l'Azawad, le HCUA. C'était trouver un interlocuteur qui n'avait pas une étiquette aussi marquée qu'Iyad Ghali. Donc ce n'est pas du tout une question nouvelle. Maintenant, effectivement, la question du dialogue avec les groupes armés, je pense que c'est une question importante et elle se pose avec acuité depuis plusieurs années maintenant, depuis au moins la conférence d'entente nationale qui avait fait de cette question une priorité pour le gouvernement, négocier avec des acteurs armés, y compris Amadou Koufa et Iyad Ghali. Je pense que en dehors des déclarations politiques, quand vous interrogez les acteurs, on a une majorité d'acteurs de plus en plus, une majorité confirmée, favorable à la négociation avec des groupes armés, y compris ceux qualifiés de djihadistes. La question qui se pose est, quelle est la méthode? Comment on doit négocier avec ces groupes armés qualifiés de djihadistes sans, bien entendu, nous mettre à dos les partenaires étrangers qui sont là depuis plusieurs années et qui ont perdu... pour certains, une vingtaine, une trentaine ou plus de leurs soldats sur le territoire national. Donc la question de la méthode, je pense que c'est là où le bas blesse et c'est là où c'est ce qui cristallise tout le débat et toute l'attention aujourd'hui. Je pense qu'on a presque dépassé la question de est-ce qu'il faut dialoguer publiquement ou en privé. Je crois qu'il y a des négociations qui vont probablement, ou si elles ne sont pas en cours, se mettre en place avec ces acteurs. Et l'idée, en bout de ligne, il faut le rappeler, ce n'est pas nécessairement de négocier directement avec Yada Gali, mais il y a beaucoup d'individus qui se retrouvent dans ces groupes qualifiés de djihadistes qui n'y sont pas par fanatisme ou par idéologie, qui y sont par simple circonstance, on a envie de dire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour récupérer ces éléments, pour aussi assécher ces groupes de leur matière première, la matière première étant les hommes et les femmes en bonne santé qui forment le gros des rangs de ces groupes qualifiés de djihadistes.
D'accord. Brima Mamadou Kone, des négociations sans Yada Gali, est-ce utile?
Oui, en fait, moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis sur la piste de la négociation. Maintenant, la question fondamentale, comment, pour désamorcer cette dynamique conflictuelle au niveau du centre, comment identifier l'ensemble de ces groupes qui opèrent dans la zone? Ça, c'est la question fondamentale. Ça, c'est le préalable qui doit être fait avant d'entamer les négociations. Moi, j'ai toujours dit aux gens, la question du centre, comme je l'ai toujours dit, c'est une question de redistribution de la justice sociale. Vous savez, l'année passée, j'étais en évaluation à Moti. Il y a un père qui m'a dit, vous savez pourquoi... Je causais avec lui, il me dit, j'ai une arme. Je dis, ah bon? Il dit, pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai pris les armes? Parce que nous sommes racketés par les forces de l'ordre. Et on est en train de nous tuer, donc moi aussi j'ai payé une arme pour mon autodéfense. Donc il faut les identifier. Et vous savez, quelqu'un qui s'est privé du luxe, quelqu'un qui s'est privé de manger, quelqu'un qui s'est privé de faire autre chose pour aller payer une arme, vous pensez que c'est facile pour la personne de déposer sans cette arme sans avoir une réponse institutionnelle ou une certaine garantie juridique? C'est impossible souvent. Je pense que le professeur doit travailler beaucoup avec le Premier ministre et le ministre de la Justice. En faisant quoi? Moi, je pense que dès qu'on aurait réussi à identifier l'ensemble de ces groupes armés, il faut aller voter par le ministre de la Justice une loi d'amnistie au niveau du Parlement. Mais cette loi d'amnistie ne voudrait pas dire nullement une impunité. Ceux qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité vont être poursuivis par les juridictions compétentes en la matière. Aussi,
mais avec ça, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir toute la population qui va se procurer des armes juste pour avoir un emploi après, parce qu'ils savent que derrière, il y aura, comment dirais-je, cette impunité, entre guillemets, dont vous signalez?
Non, ça veut dire que c'est possible, mais il faut mettre des stratégies en place, des stratégies communes avec l'ensemble des partenaires que nous avons, l'opération Barkhane, MINUSMA, machin. Pour pouvoir, c'est ce que j'ai dit, quand on les identifie, c'est facile de pouvoir les désarmer. Et dans les plans de désarmement, il faut élaborer un plan de réinsertion socio-économique pour ces ex-milices ou pour ces ex-combattants des groupes armés. Il faut qu'ils aient une certaine garantie en termes de réponse institutionnelle et politique. Et deuxièmement, moi je vais même au-delà de ça. Je dis souvent, il faudrait que le gouvernement de la République du Mali soumette un projet au niveau du fonds climat. Parce que quand vous prenez le problème du Nord, du centre, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord, de prime abord, il y avait des rivalités exacerbées entre les chefferies traditionnelles, PL et Dogon, et avec l'absence de l'État, ce qui a donné un regain de violence intercommunautaire. Et il y a aussi la question de la rareté des ressources naturelles et des ressources de production. Les terres, l'eau. Quand vous partez chez moi à Kadjoulou, il y a aujourd'hui une migration environnementale du peuple Dogon vers chez moi à la recherche de terres agricoles. Il y a assez de Dogons chez nous. Donc il faut travailler à avoir des réponses par rapport, comme le docteur Tungara le disait, par rapport aux services socio-économiques de base. La pauvreté, elle est endémique. Il faut avoir des réponses économiques, il faut avoir des réponses sociales, il faut avoir des réponses sur le plan de la justice.
De multiples
sociale.
Réponses, comme le disait Maïga.
La crise, elle est multidimensionnelle. Il faut avoir des réponses multidimensionnelles pour pouvoir la désamorcer.
Vous voulez réagir 30
secondes
sur le
rapport? Oui, je voulais juste insister sur un point qu'il a mentionné, c'est la justice, la redistribution équitable de la justice. Et je pense que, de toutes les façons, au Mali, les gens sont conscients que tout le monde ne va pas demain, par enchantement, avoir un emploi. garantie par l'État, cela n'est pas possible, cela n'est pas envisageable. Donc l'hypothèse que vous formuliez à l'instant qui consiste à se procurer une arme pour intégrer, cela de toutes les façons n'est pas envisageable. Ce n'est pas parce que vous avez une arme que l'État malien sera en mesure de vous réinsérer économiquement. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut même tempérer la question de la réinsertion socio-économique, parce que dans cet espace-là, dans le centre du Mali, parfois vous avez des gens, ceux qui prennent les armes, c'est des gens parfois qui ont un travail, un métier. Ils sont éleveurs, ils sont agriculteurs, etc. Mais pourquoi ils prennent les armes? Ils prennent les armes pas pour avoir accès à un emploi. Un emploi, on entend un emploi de... le fonctionnariat. Ce n'est pas du tout ça leur objectif. Quand vous les interrogez, en tout cas une partie vous dit, mais moi j'aimerais juste exercer mon activité professionnelle. J'aimerais juste l'exercer. Aujourd'hui, on m'empêche de l'exercer, soit parce qu'il y a une insécurité ambiante, soit, comme vous le disiez à l'instant, les forces de l'ordre, les eaux et forêts, etc., me rackettent. Et donc, je n'ai pas les bénéfices de mon activité professionnelle, de mon activité économique. Et donc, il est important, je pense, et fondamental de commencer par la gouvernance d'abord. Parce qu'une fois qu'on est d'accord sur les règles qui vont régir la nouvelle gouvernance ou ce que j'appelle moi la nouvelle ingénierie sociale dont le centre a besoin, le reste suivra. La pauvreté, elle ne va pas s'estomper, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il faut du temps. Mais pour cela, il faut que la confiance revienne. Il faut qu'il y ait une gouvernance vertueuse qui s'installe. Il faut que les gens aient confiance en l'administration, en l'autorité de l'État. Et je pense qu'à ce titre, on peut peut-être même regretter le fait que au sein de la délégation gouvernementale, donc la délégation qui a accompagné le Premier ministre, qu'il n'y ait pas le ministre de la Justice, justement.
30 secondes.
Autre chose que j'ai toujours dit, j'ai dit, vous savez, la question des réformes institutionnelles et politiques est presque devenue un sujet, un tabou dans notre contexte. Mais j'ai dit, il faut aller vers, il faut ouvrir le débat. Parce que quand vous prenez, la plupart de nos institutions de la République sont presque à genoux. Il faut les revisiter. Et voir, parce que vous savez, le type d'État que nous avons aujourd'hui va être difficilement accepté dans les zones de conflit. Il faut aller vers un État réforme. Il faut aller vers des réformes structurelles. Je vous donne un exemple. En 2016, moi j'étais à Tasika. C'était en février. Tasika sur la route de d'Ansongo pour aller vers la Bezanga. Un jeune m'a dit: Monsieur Koné, vous parlez beaucoup d'État, vous parlez beaucoup de paix, mais ce que vous oubliez, pensez-vous que l'État malien qui nous a fui sous la domination des groupes djihadistes et des islamistes et autres bandits de grand chemin, vous pensez que ce même État revienne sous ses anciennes formes pour nous gouverner? Il dit non. Nous voulons un État réformé qui prend en compte dans l'élaboration de ses politiques publiques et économiques toutes les sensibilités sociales et politiques.
D'accord. Alors, si on devrait négocier avec des djihadistes aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le professeur Diomunda Traoré est l'homme qu'il faut?
Bon, peut-être qu'il parle arabe. Bon, mais non, c'est pour caricaturer. Non, je pense que, pas forcément.
Depuis ma mort, tous ne parlent pas arabe.
Oui, clairement. Pas forcément sa personne qui est intéressante pour déclencher un tel dialogue. Mais je pense qu'il peut quand même déclencher le dialogue via d'autres acteurs qui sont même invisibles, notamment les leaders religieux, qui sont très proches de certains groupes radicaux violents. Du point de vue idéologique, la proximité elle est idéologique. Voilà, je pense qu'il peut beaucoup s'appuyer sur ces groupes, sur ces acteurs religieux dans le contexte malien. Mais n'oublions pas que, c'est vrai, tout a commencé avec le référentiel musulman au centre du Mali. Mais aujourd'hui, lorsqu'on s'interroge sur les dynamiques conflictuelles, elles questionnent plus le communautaire, elles questionnent plus à l'accès aux ressources naturelles, elles questionnent plus justement à la manière dont les communautés perçoivent même la question de l'utilité de l'État. Donc, on est, Maïga faisait allusion, c'est cela en fait. Aujourd'hui, les gens vont me trouver un peu trop même pessimiste. Et si vous regardez dans une rue quelconque à Bamako, l'impression que vous avez en toute objectivité, c'est l'absence de l'État en réalité. Ouais, moi je pense que dans le contexte malien aujourd'hui, l'État n'arrive pas à jouer pleinement le rôle qui est vraiment le sien. Par le simple fait qu'il n'arrive pas à imposer son marqueur sur les citoyens. L'État malien est dans un état de déliquescence à telle enseigne que tout observateur averti objectif aura forcément cette impression de se retrouver dans un pays sans État. Donc, de ce fait, il va de soi que dans un tel dialogue avec le groupe radicaux violent, avec les milices d'autodéfense ou les milices communautaires, que l'État arrive d'abord à asseoir les fondamentaux d'un État. Raison pour laquelle je me désolidariserai de toutes les formes de réformes institutionnelles, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte malien, les textes ne poseraient pas de soucis, à mon avis, mais plutôt les hommes qui les portent, en réalité. N'oublions pas que, quelle que soit l'ingéniosité qui va accompagner la nouvelle constitution, ce sont les hommes quand même qui sont censés la porter. Est-ce que ce sont les textes qui vont être appliqués ou ce sont les hommes qui vont jouir de leurs prérogatives au détriment, effectivement, justement des intérêts dits collectifs. Donc je pense que dans le contexte malien aujourd'hui, il faut beaucoup travailler sur l'orthodoxie. Il faut beaucoup travailler sur la notion de la morale. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui où l'agent de l'État est utile pour la communauté. Je ne vois vraiment pas. Dans les pays qu'on peut qualifier de sérieux, quand vous voyez un policier, vous êtes super content parce que déjà, le policier, il est synonyme de l'assurance, il est synonyme de la sécurité. Le gendarme, il est vu de la même manière. Mais je vous promets, à Bamako, déjà, on est quand même loin de Mopti, on est loin de Gao, on est loin de Kidal. Vous croisez un policier, vous êtes en règle, hein, tous vos papiers sont à jour. Et ce sont des inquiétudes. Là, il y a un problème quand même quant à son utilité. Vous croisez un agent au Eforé à Mopti, que des inquiétudes. Ah, il ne faut même pas parler de la justice. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un problème d'institution. Il faut qu'on arrête de mentir aux populations qui souffrent dans ces différentes localités, mais plutôt que l'État s'efforce à impulser un minimum d'éthique chez les acteurs qui l'incarnent.
D'accord, ici, justement, il nous reste 5 minutes, parlons des solutions. On ne connaît pas pour le moment le mandat et la feuille de route du haut représentant de l'État. Quel devrait être son mandat, selon vous?
Alors, je ne peux pas ne pas réagir, ne pas rebondir sur ce que le docteur Tunkara vient de dire, qui est enseignant de formation et qui dit que dans aucun des secteurs, le fonctionnaire n'est utile. Donc, c'est lui qui le dit et qui emporte l'entière responsabilité.
Même l'enseignant dans ce cas.
Mais en fait, ce qui m'inspire un peu ce que Dr Tunkara vient de dire, c'est un peu la fameuse question à savoir si aujourd'hui le problème se situe au niveau du véhicule, du chauffeur ou de la route. Et moi, j'ai l'impression que les trois ne vont pas bien au Mali. Je m'explique. Le chauffeur, c'est un peu les hommes qui conduisent les institutions. Le véhicule, si on veut, c'est les institutions. Et la route serait un peu les pratiques. Moi, j'ai le sentiment qu'à tous ces niveaux-là, il y a des défaillances. Je pense quand même qu'il faut, au-delà des personnes qui animent ces institutions, il y a des réformes substantielles à apporter à notre façon, à notre mode de gouverner au Mali aujourd'hui. Maintenant, pour revenir un peu à votre question qui porte sur
les solutions,
encore une fois, sous réserve de voir, d'avoir un peu plus de clarté dans le mandat, dans la feuille de route ou la lettre de mission qui sera confiée au professeur Diankouna Traoré, je pense qu'il y a un élément fondamental qu'on a peut-être pas rappelé ou pas suffisamment rappelé, c'est un ancien chef d'État. Est-ce qu'on peut reprocher aux autres hauts représentants ou représentants du chef de l'État, soit de façon formelle ou en off, beaucoup dénoncent quand même l'inaccessibilité au chef de l'État. On n'arrive pas à communiquer suffisamment avec le chef de l'État, son indisponibilité, son inaccessibilité. L'avantage que pourrait avoir le professeur Diankouna Traoré en tant qu'ancien chef d'État, c'est juste probablement cette accessibilité au chef de l'État. Donc il aura, sous réserve encore une fois de la marge de manœuvre qu'il aura et puis de la feuille de route qui lui sera confiée, peut-être un accès beaucoup plus important au chef de l'État. Il faut souhaiter qu'il puisse prendre des décisions courageuses. Encore une fois, moi, je ne sais pas ce qui est contenu dans la lettre de mission qui lui sera donnée au cours des prochains jours. Mais il me semble qu'il est fondamental qu'il assure un rôle de coordination dans cette partie du Mali, mais surtout qu'il initie un dialogue sincère, on va dire, inclusif avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes dans cette partie du Mali.
Dans cette partie du Mali.
Mais encore une fois, j'aimerais rappeler que ce n'est pas une baguette magique, c'est peut-être le début de quelque chose, mais ce n'est nullement la fin de tous les maux dans le centre du Mali.
D'accord. Kone, selon vous, quel devrait être le contenu?
C'est-à-dire que le contenu, d'abord, c'est
de la feuille de route.
La feuille de route, il faut une coordination, d'abord, de l'ensemble des acteurs au niveau institutionnel. Et aussi, il faut une meilleure coordination de tout ce qui va être action humanitaire et action sociale au niveau du centre. Ça doit être bien coordonné à ce niveau. Et deuxièmement, il faudrait que le professeur aussi soit accessible pour les autres acteurs. Pour conclure, je répète la phrase de Guinguéré et Marcelin, désarmons nos cœurs avant de désarmer nos bras. C'est un appel lancé à la jeunesse malienne.
D'accord. En quelques mots, quelle devrait être la première action du haut représentant du chef de l'État, Mopti?
Bon, première action, que lui soit déjà exemplaire. L'exemplarité va forcément résider dans la justice. Je pense qu'il n'a pas à traiter les gens parce qu'ils sont peuls, ils sont dogons, ils sont bois. Il doit les traiter en tant que malien, peu importe le différentiel. Un autre aspect important, très rapidement, que le président de Kouna doit engager aujourd'hui, sincèrement, c'est l'exemplarité de l'élite au pouvoir. Moi, j'ai la ferme conviction qu'aujourd'hui, si les communautés, peu importe leur obédience ethnique, peu importe l'obédience religieuse, si celles-ci ont la ferme conviction que l'État est neutre, que cette qualité d'équidistance est en l'État, naturellement, elles n'ont pas le choix de se soumettre à l'État.
Mais donc, comme pour les médias, d'être professionnel, indépendant et neutre dans la gestion des affaires publiques. Merci, Dr Ali Tunkara, sociologue, Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité de Bamako et Brahima Mamadou Kone, politologue. Je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC financé par l'USAID. À la régie vidéo et audio, Mamadi Keïta, Fili Dambélé et Gagné Kanté, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.